Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Hobart, Christine Minetto et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu,
outils, expérimentation,
productivité,
interaction, innovation,
Jeff,
Guillaume,
Seb
et Seb.
Salut, salut, salut à tous et bienvenue dans le numéro 78 de eTeachers. On est désolé, ça fait presque un mois, voire même un mois, qu'on n'a pas fait d'émission tous ensemble. Excusez-nous, nos vies exaltantes, nos vies surprenantes, nos vies exceptionnelles, comme vous écoutez. Non, en fait, c'est chiant, on est comme tout le monde, on a du boulot et on n'y arrive pas. J'espère que vous allez bien. Ça va, Jeff? Ça va, Seb?
Ça va, content de se retrouver.
Ouais,
oui. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'un mois, ça fait long, mais franchement, c'était short de trouver un moment pour se retrouver tous les trois, voire tous les quatre. Hein, parce qu'on attend un peu, on n'entend pas. Seb, c'est très compliqué de l'avoir aussi, hein, le Seb américain.
Notre Seb américain, ouais, c'est compliqué pour lui, on en est désolé, et on va essayer de faire en sorte de pouvoir le retrouver très vite.
Très vite.
Avec plein de choses à nous raconter. Bon, mon cher Jeff, des retours sur la dernière émission, bien sûr.
Bon, juste pour la petite histoire, en off, je lui ai dit de ne pas me poser la question, il me la pose.
Okay. Ah, bien sûr, tu me dis ça à moi.
Franchement.
Non, j'ai pas fait mon boulot, je suis pas allé voir ni les réseaux sociaux, ni rien du tout. Je suis désolé s'il y a eu des messages, j'ai mal fait mon boulot.
On va partir du principe que tout le monde est comme nous, c'est-à-dire surbooké en cette fin d'année scolaire. Et c'est pas grave, on fera le prochain épisode. Une rétrospective de tous les commentaires depuis un certain nombre de temps.
Allez, un petit sommaire. Allez, je vais essayer de faire un petit sommaire rapide. On a deux outils, voire même du matériel de ma part, dans la partie outils, un tout petit truc dans les trucs et astuces. Je vais vous parler d'un petit morceau d'innovation en actu. On a un gros retour sur les rencontres de l'Orme, et bien sûr on finira par ce que l'on fait en ce moment. Comme d'habitude, on fait quand même beaucoup de choses, hein, puisque vous l'avez entendu, on arrive du mal à se trouver un petit moment pour les teachers, et on finira bien sûr par notre partie pour parler d'autres choses comme d'hab.
Super, et ben ma foi, allons-y de bon cœur, on attaque.
Ouais, allez. Je sais pas qui a mis le premier outil.
C'est moi qui ai mis ce premier outil, et c'est quelque chose d'assez rapide. Je le dois à notre cher ami collègue Tisman, qui en a parlé récemment dans un de ses billets. Il s'agit en fait d'une petite extension, hein, add-on en anglais, qui est là pour aider les élèves qui sont donc en situation de handicap de dyslexie exactement. Et qui va permettre d'adapter un petit peu le texte. Donc, il me semble, on a certainement déjà dû parler de ce genre d'outils dans des teachers. En tout cas, je ne l'avais jamais encore vu. Je l'ai testé, du coup, avec des élèves ce matin. Et je reconnais que c'était assez intéressant. Donc, comment il fonctionne? Il fonctionne très simplement, messieurs, dames. Ah, on va faire un hommage à Pierre Belmar ce soir. Alors, comment ça marche? Pour le mode Excel de 595 francs, on y va.
Ça me semble que tu fait la même il y a un mois. Hein. Je vais pas dire.
Non, c'est vrai. Oh merde.
C'était loin. Pierre,
non, mais je sais que tu es assez fan. Donc,
J'adore Pierre Belmar.
Pierre, si tu
peux faire, tu peux faire Maryse d'ailleurs. Oui, Pierre.
Oui, bien sûr.
Alors. Revenons au mouton. Là, je suis sur une page Wikipédia et en haut à droite, ici, j'ai mon petit add-on qui est.
Alors, ce que tu appelles un add-on, c'est une extension, c'est
ça? Une extension, effectivement. Ouais. Là, je suis sous Chrome. De mémoire, elle existe sous Firefox aussi, mais en tout cas, sous Chrome, c'est certain, sur toutes les plateformes, bien évidemment. Donc, quand je clique dessus, en fait, je peux activer l'extension d'abord. Je vais l'activer une première. on et je peux activer tout un tas de paramètres, notamment en ce qui concerne des affichages qui vont aider en termes de police. Pourquoi pas éventuellement faire afficher les syllabes avec des couleurs qui sont surlignées pour montrer les différentes syllabes. Quelque chose au niveau des phonèmes, quelque chose au niveau des lettres. C'est assez pointu. Hein, moi, et l'écriture HF, je sais pas exactement ce que c'est. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je me rappelle plus. En tout cas, on a bien sûr tout un tas de préférences qui permettent de changer la totalité des réglages possibles en termes de couleur, en termes de taille. Alors, on a même de l'écriture inclusive si on veut pour la mise en forme. Et je suis assez d'ailleurs content de ça, tout simplement parce que j'ai toujours trouvé que l'écriture inclusive, au-delà du débat éthique sur cette partie, me posait un gros problème justement pour les élèves 10, puisque moi-même, quand je lis des textes en écriture inclusive, je trouve que ça devient illisible, tous ces points au milieu des mots. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment pas facile. Et là, cette petite extension permet effectivement de régler des petites choses. Alors, c'est très simple, j'ai activé l'outil. Il suffit en fait de se balader. Par exemple, là, je vais activer juste la police qui va changer sur le paragraphe ou le mot en question que vous voulez lire avec un raccourci. Ici, la touche commande sur mon Mac. Hop, je vais choisir par exemple tout ce paragraphe. Je clique et vous voyez, ça me transforme automatiquement la police. Donc là, je suis dans une police qui est a priori adaptée pour les élèves en situation de dyslexie. Donc là, c'est uniquement la police qui change. Je peux également donc activer la coloration des syllabes. Je vais essayer ça sur un autre. Paragraphe, vous voyez, on a là les syllabes qui sont surlignées de différentes couleurs. Je peux également activer les phonèmes. Voilà, attention, je vais essayer ici. Hop, et voilà, là j'ai les phonèmes qui sont soulignés pour le rapport graphie-phonie. Bon, je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris. L'idée, c'est que c'est bien sûr un outil qu'il faut présenter aux élèves en situation de dyslexie, plutôt de dyslexie lourde, et la possibilité qu'ils se l'approprient, qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent se l'installer, et bien sûr choisir ce qu'ils souhaitent activer ou désactiver, bien sûr, ou faire apparaître ou cacher. Voilà, DysAid, comme son nom l'indique. C'est absolument gratuit, bien évidemment. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà.
Ouais, ça reprend les fonctions classiques de ce genre de logiciel, mais sous forme d'une extension, c'est pas mal.
Tout à fait. Il n'y a pas de grande nouveauté là-dedans. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à apporter. C'est assez pratique, quoi.
Voilà, tout à fait.
En tablette, c'est possible, non? Tu sais pas?
Non, j'ai pas poussé plus loin. En fait, je sais même pas si on peut ajouter des extensions générales sur les navigateurs tablettes. Hein. Je crois pas.
Non, je pense pas non plus. C'est vrai qu'un outil comme ça, tablette, moi, je cherchais un moment puisque nos élèves 10 ont donné une tablette. Alors.
C'est évident. Alors après, je sais que sur les tablettes, il y a dans les réglages d'accessibilité, on peut faire des choses, mais souvent c'est très basique. Hein. Enfin, c'est très, disons que c'est pour les personnes en situation de malvoyante, peut-être pas non-voyante, mais en tout cas malvoyante ou non-voyante pour les avec le voice-over, tout ce qui est voix qui lit tous les menus, ce genre de choses. Mais je crois pas que pour ce degré-là, je pense pas que. Peut-être à réfléchir, en tout cas, pour des développeurs qui nous écouteraient, ça peut être effectivement très intéressant.
On ne prend
voilà,
que 10%.
On est... Tout à fait.
D'accord, ouais. Non, ça va, je connaissais cet outil-là dans LibreOffice ou Word, mais pas sur le navigateur, tu vois. Non, c'est bien. Ok. Allez, je vais. J'enchaîne. Ouais. Je vais enchaîner avec mes petits joujoux du moment. En ce moment, j'ai eu la chance d'avoir un petit robot qui ressemble à ça pour ceux qui sont en vidéo. C'est trois petites boules là. Il est tout mimi là. Il s'appelle le Dash. Dash, D-A-S-H-H. D-A-S-H, pardon. C'est un petit robot alors qui n'est pas donné, hein, qui vaut une. Moi, je vais essayer de l'allumer. Vous le voyez un petit peu bouger pour ceux qui sont en vidéo. Je ne sais pas si vous entendez dans le micro. Vous l'entendez un peu. Alors, il est super mimi, super ludique. On se dit, bon, bah, ça va bien le faire, ça pour les tout petits. Bah, plus que ça, parce qu'on peut vraiment aller très, très loin dans ce robot-là. Alors, ça vaut 150 euros, je disais, c'est quand même pas donné, mais il est quand même assez puissant puisqu'il a quand même bon, deux moteurs forcément, hein, qui fait droite-gauche, avant-arrière, ça, il n'y a pas de souci. Il a un petit, vous avez vu, un petit œil lumineux au-dessus qui va pouvoir bouger à droite, à gauche, cligner de l'œil, envoyer des choses, envoyer des sons, ce qui peut être intéressant, s'enregistrer même et émettre ensuite l'enregistrement. Il a un capteur de contact devant, donc on va pouvoir jouer avec les capteurs, etc. Alors, hormis l'objet technologique que je trouve vraiment, vraiment très intéressant par rapport à certains que j'ai du commerce, ou voilà, c'est que au point de vue application, il est vraiment très puissant puisqu'on va trouver plusieurs styles de langage. Pour les tout petits, on va avoir un langage dans une application qui s'appelle. Alors c'est uniquement tablette puisqu'il marche uniquement sur Bluetooth. Par Bluetooth, hein, celui-là, uniquement tablette. Android et iPad, il ne marchera pas sur l'ordinateur. La connexion est assez simple puisqu'en fait on peut avoir un robot pour par exemple une classe, hein, moi je l'ai vu fonctionner, les élèves font leur programme sur leur tablette et puis se connectent au fur et à mesure sur le robot pour tester leur programme. Donc tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir forcément énormément de robots, ça j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Alors au point de vue langage, on a des langages très simples avec l'application Wonder qui est un langage graphique où on va avoir des suites d'instructions qu'on va relier les unes avec les autres. L'application est en anglais, mais il n'y a pas besoin de forcément savoir lire pour faire ce petit programme. Et ce qui m'intéressait plus, c'est la partie bloc, hein, puisque c'est la mode en ce moment du bloc en cycle 3, voire même cycle 2, hein, puisque j'ai vu quelques collègues utiliser le bloc en cycle 2. Et qui s'appelle simplement Blockly, qui est la partie, mais par contre, qui est complètement en anglais. Alors, ça a un peu rebuté certains. Alors, elle est vraiment très puissante. Hein. On peut vraiment faire des choses vraiment intéressantes. J'ai fait programmer un groupe cet après-midi de personnes qui simulaient, tu vois, un robot aspirateur, hein, donc qui détectait les obstacles, qui tournait, qui repartait, etc. Vraiment, vraiment très intéressant. Et assez poussé. Sauf qu'elle est en anglais. Bon, donc moi, j'ai cherché un petit peu s'il y avait possibilité d'avoir une version francisée. En fait, il en existe une. Alors, c'est pas une app officielle. Hein. C'est une app qui a été développée par Tierce. Elle n'est pas parfaite, j'avoue. Hein. Elle s'appelle Blockify. Blockify, tout simplement, F-I-F-Y. Et il y en a une Blockify for Kids qui permet de programmer ça en français. Elle n'est pas parfaite parce qu'elle plante de temps en temps, hein, je l'avoue, hein, mais qui permet de faire pas mal de choses. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'était pas trop pour mes élèves. En fait, c'est en direction, je vous en parlerai peut-être de ce que je fais en ce moment, hein, puisque je me suis lancé dans des formations justement envers les PE sur la robotique. Et donc, c'est un des robots qu'on m'a prêté, en tout cas pour tester, et que j'ai trouvé plutôt très intéressant, en tout cas, ce robot-là. Voilà. Et très fiable. Voilà, très, très fiable. Voilà, Dash, D-A-S-A, vous le trouvez un peu n'importe où hein, pour l'acheter, même sur les bons sites de e-commerce, vous les trouvez.
Tu l'as peut-être dit, mais j'écoutais vraisemblablement pas. Ça coûte combien?
tu réécouteras l'émission.
D'accord. Ok, ça c'est la vanne pour le coup de l'ouverture du podcast où je t'ai embarrassé avec. Ok, d'accord. Ok, un partout, balle au centre.
Ah, ça promet.
Allez, un petit truc astuce, c'est quoi qui continue encore? Ça va être très très rapide. Oui. Très très rapide. Alors pour donner le lien, ça va être assez compliqué aussi. En fait, c'est des petites trucs astuces sur pour faire des tirages au sort. De temps en temps, on en avait parlé hein, des petites applis qui permettent de faire des tirages au sort. Et là, je trouve que sur le site de la DSDEN du Rhône, ils ont fait un petit récapitulatif, j'ai toujours eu du mal à dire ce mot, d'applications qui permettent de faire des tirages au sort. Donc, les plus, les moins, en plus à chaque fois, donc les avantages et les inconvénients, je trouve ça plutôt sympa. Et vous pouvez aller voir, on vous mettra le lien dans les notes de l'émission qui s'appelle « Outils de classe, tirage au sort » de la DSDEN du Rhône, vous le trouverez. Et il y en a une bonne dizaine, en tout cas, de qui permet de faire des tirages au sort. Assez sympa, certains avec des groupes, certains avec d'autres choses. Donc, voilà. Vous irez voir cette petite chose assez sympa.
Super.
Très bien.
Et ben moi, j'ai un petit truc.
Il a apparu quelque chose, ouais.
Voilà, que je cherchais depuis tout à l'heure. Oui, je suis toujours bien en avance. moi, en cette fin d'année, là, c'est vrai que ça pourrait se recouper avec aussi ce que je fais dans mes pratiques. J'aime vraiment de plus en plus aller dans la logique du scénario pédagogique, en langue vivante, on parle depuis très longtemps de la fameuse tâche finale, de l'approche actionnelle, enfin bref, qui fait qu'on essaye de plus en plus de mettre nos élèves dans des sortes de jeux de rôle, hein, on pourrait résumer ça de manière un peu grossière. Et j'essaye de plus en plus de mettre quand même un peu les formes, d'essayer bien sûr graphiquement d'avoir des choses attrayantes pour les élèves, et aussi même d'un point de vue sonore, c'est-à-dire que quand je suis dans certains scénarios pédagogiques, bon voilà, un grand classique du prof d'anglais, c'est la detective story, quand on travaille justement sur les hypothèses, sur ce genre de choses, et bien l'autre jour, j'ai fait une séance qui a commencé avec une mise en scène un petit peu, on était déjà pas dans l'escape game, mais dans l'enquête à résoudre, et j'ai mis un peu de l'ambiance avec des musiques. Et comme la tâche était un peu, au final, les élèves eux-mêmes créent un petit scénario de détective, ce genre de choses, et qu'ils devaient le monter avec, comme faune notamment, dont on a déjà parlé maintes et maintes fois, j'avais envie qu'ils associent un peu de musique, bien sûr, de bande originale, une sorte de bande originale. Et ben, si on veut quand même être dans les clous, un petit peu comme les images, si on veut être un petit peu sympa... avec les droits d'auteur, hein, je vous rappelle que c'est quand même quelque chose qui est important, il faut trouver des musiques qui sont libres de droit, au même titre qu'on puisse trouver des images libres de droit. Voilà. Et bon, bah, en cherchant sans trop se prendre la tête longtemps, il existe de très, très, très nombreux sites qui proposent des musiques à utiliser de manière libre. Dans les notes de l'émission, nous mettrons un lien qui synthétise plusieurs sites qui le font. Moi, j'en ai un là qui est vraiment très, très bien, qui s'appelle conversesamplelibrary.com, qui est vraiment vous avez de tout, quoi. Il y a un moteur de recherche, et puis en plus on peut s'intéresser aux artistes, hein, d'ailleurs, qui produisent, qui offrent, hein, quelque part leur qui offrent, c'est une licence, j'imagine que c'est une licence Creative Commons, donc c'est pas tout à fait offert, mais en tout cas qui autorise l'utilisation de leur œuvre pour les élèves. Et c'est pas mal, parce que à la fois, en travaillant avec les élèves, on est aussi sur une démarche responsable d'éducation aux médias également, et c'est pas mal. Et en plus, la musique est plutôt sympa. Voilà.
C'est que des musiques, hein. Il n'y a pas de samples, de bruitages.
Non, justement, celui-ci, en fait, c'est même plutôt une bibliothèque de samples. C'est vraiment des formats courts, souvent, donc c'est plutôt pas mal, quoi. C'est vraiment fait. Alors bon, dans la musique, il y a tout plein de gens, d'artistes qui, ces gens-là, en fait, au départ, mettent à disposition ces médias-là pour justement les DJ et tous les gens qui mixent vraiment de la musique en live puissent les utiliser de manière libre. Voilà, c'est une manière détournée d'utiliser un petit peu ces sites-là. C'est à la base pas du tout fait pour l'éducation, bien évidemment. Hein. Mais il en existe plein, plein, plein. Vous verrez.
On est toujours en recherche de ça, de toute façon, dans plein de projets. Hein.
Le problème de ce genre de truc, c'est qu'en fait, on arrive à perdre énormément de temps pour chercher, trouver. Et quand on le propose aux élèves, si vous le faites en classe, en fait, ils adorent ça. Donc, ils vont perdre, combien de temps.
Je pense que, moi, j'en ai utilisé un, j'arrive plus à retrouver le nom, qui permet d'avoir un bon moteur de recherche. Un bon moteur de recherche, c'est super intéressant pour éviter de perdre du temps. Voilà.
Tout à fait. Et en tout cas, ça reste quand même de qualité. C'est des fichiers en général sur des formats, soit du MP3 de très bonne, enfin du MP3 de très bonne qualité, c'est un peu bizarre, mais de haute compression, ou sinon sur du FLAC, de l'AIFF, enfin des formats qui sont plutôt cool. Enfin, vous allez me dire, pour mettre sur comme faune, il n'y a pas non plus besoin.
Oui, c'est sûr.
C'est quand c'est de là. Mais bon, en tout cas, voilà, ça existe et voilà, un petit truc et astuce toujours à ne pas oublier.
Eh bien, merci.
C'est encore à moi, oui. Donc, une petite innovation, expérimentation, j'enchaîne.
Moi, mais en fait, c'est même pas où il en est. Alors,
innovation, expérimentation. Moi, je veux parler d'un. Alors, je sais pas si c'est un projet ou si c'est plutôt, en tout cas, une initiative de David Cohen. On avait un petit peu parlé de ce monsieur prof d'art plastique dans l'Académie de Nice, qui a fait quelque chose, une initiative plutôt intéressante qui s'appelle les petits fascicules, qui sont en fait, comme son nom l'indique, hein, des petits PDF comme ça, ou avec une thématique numérique, innovation, enfin voilà, expérimentation un petit peu. Hein. Il y en a sorti au nombre de 8 pour l'instant, petits fascicules. Alors pour trouver ça, c'est pas forcément évident hein, de le trouver, mais sur le site de l'Académie de Nice, à art plastique, mais pourtant ça ne touche pas que l'art plastique. Par exemple, le petit fascicule 1, c'était pourquoi transformer sa classe, où on a chaque fois 7 pages. En fait, il fait ça sur 7 pages,
où il dit toutes les possibilités, par exemple, de transformer sa classe, hein, l'ameublement, les couleurs, toutes ces choses-là. Il parle de la, dans le deuxième, pourquoi la créativité est-elle si importante? Pourquoi un usage pédagogique des appareils connectés des élèves? Pourquoi créer avec le numérique? Pourquoi gamifier les apprentissages? En fait, c'est chaque fois, il a pris ce principe-là. C'est un petit PDF. Alors, je ne sais pas s'ils existent sous forme de papier, peut-être dans l'Académie Nice. Je ne sais pas si
vous avez vu passer ça.
Non. Et toujours sur cette page, il s'est limité. C'est très graphique. C'est vraiment, vraiment très sympa. Et c'est une très bonne initiative de sa part. Je vais essayer d'en partager un pour ceux qui l'ont vu. Hein. C'est très graphique comme ça. Et on a l'usage pédagogique. C'est vraiment. Voilà, c'est des choses assez simples. Alors, je ne sais pas combien il en publie à la fois. Hein. Mais il en est, en tout cas, là, ça, j'ai dit quoi, 9e, je crois. 9e parution. Donc, il faut aller les chercher. Je les mettrai dans les notes de l'émission. Mais c'est vrai qu'il n'est pas super facile à voir. Moi, c'est grâce à Twitter que je les ai connus. Hein, que, voilà. C'est quelqu'un que on avait essayé d'inviter, David, quand on avait fait notre émission sur le BIOD. Voilà.
Alors moi, si tu veux, je les ai connus, ceux-là, par le site de classtis.fr de Christophe Gilger.
Ouais.
C'est comme je le suis sur Twitter, du coup, c'est comme ça que je les avais rencontrés.
C'est plutôt bien fait, hein.
Ouais, ouais, et puis tu les retrouves, là, par contre. Si on va sur ce site-là, tu les as tous sur une seule page.
D'accord. Okay.
Et ils ont fait ça avec un QR code aussi, c'est bien les QR.
Voilà. Non, c'est une très bonne initiative, je trouve. Hein,
tout à fait.
Pour parler d'usage simple et puis très succinct, il n'y a pas du blabla pendant deux heures. Voilà. Et ce n'est pas que art plastique, ce n'est pas parce qu'il est prof d'art plastique et que c'est le site d'art plastique. Voilà.
Tu vas aborder la thématique de la ville intelligente, on est loin des arts plastiques aussi.
Donc voilà, les petits fascicules.
Ouais.
David Cohen. As-tu ?
Allez,
le gros morceau, Seb.
Ah, le gros morceau. Donc, j'ai été invité à l'ORM, rencontre de l'ORM 2018, qui avait lieu à Marseille les 30 et 31 mai. Alors, j'ai été invité là-bas à l'occasion de ma carte, dont je vous avais parlé ici, hein, de ma QR carte, qui avait plu à mon Nérune. Bonjour, bonsoir Céline, si tu nous écoutes d'ailleurs.
Ah, t'as quoi, pardon ?
À mon Nérune, mon enseignant référent aux usages du numérique.
Ah, ok, d'accord, merci.
Anciennement que... MAI.
D'accord.
Assistant informatique. Ah oui, non, nous on change, tu sais, les acronymes.
Ah, c'est marrant parce que moi je suis un Yann, je ne connais pas les Nérunes, ses parents. On devrait... Les Yann et les Nérunes devraient se rencontrer.
Tiens. Ouais, mais tu sais, en informatique, on aime souvent les runes. Voilà. C'est très mystique tout ça. Les collègues. Ouais. Les premiers collègues à qui j'ai dit ça, ils m'ont dit les runes. Là, des vikings, là ? Non, quand même. Donc, ça avait lieu à Marseille, au Palais des Expos, sous forme d'un... Alors, à part les conférences qui étaient en amphi, c'était en forme d'un grand espace ouvert, très sympa, accueillant. Bon, par contre, niveau bruit, voilà, ça, c'était le gros défaut. C'est quand je suis sorti de là, je me suis rappelé que le silence était bon, etc. Mais il y avait un niveau de bruit permanent. Mais c'est le contrepartie de ce genre d'aménagement. Le thème, c'était sur la forme scolaire. Ça faisait écho suite, je ne sais pas comment vous le précisez, à Écritech qui s'est tenu à Nice, qui se tenait à Nice un mois plus tôt. Donc, et du coup, le premier jour, je suis rentré, je suis retombé sur quelqu'un qu'on avait interviewé avec Jeff, c'est Caroline Brotet-Aiello. Bon, ça ne m'a pas étonné puisque vu ce qu'elle avait fait avec éclat, la retrouver là, c'était assez évident. Donc, c'était assez amusant de la rencontrer en vrai. Ce qu'ils avaient fait pas mal, c'est qu'il y avait plusieurs thématiques, comme par exemple, si on était intéressé par la programmation, ils avaient regroupé sous forme d'un parcours les différents ateliers qui étaient présentés. Il suffisait de flasher un QR code à l'entrée avec parcours machin et vous aviez votre programme de fait pour la journée. Et oui, alors c'était bien, mais il y avait trop de trucs en fait. Je vais vous dire, j'ai eu l'impression de ne rien faire avec la masse de possibilités. Parce qu'alors, on avait des conférences, on avait des lieux de présentation sur tout le palais des expos avec autant de personnes que de postes. On avait un espace démo avec des choses très intéressantes, puisque c'est là-bas que j'ai eu la joie de présenter mon petit projet. Et alors, c'était très, très varié. Donc, inutile de vous dire. Alors, les conférences, je n'ai pas pu y assister parce que trop pris. J'ai voulu trop voir le reste, donc je n'ai pas pu aller voir. Les conférences étaient surtout centrées sur la forme scolaire, par exemple. Là, oui, on explorait le thème, etc. Moi, j'ai été me balader. Ah oui, j'avais oublié un truc. La première chose que j'ai vue, ce sont les vendeurs.
Ah ben forcément.
Comme tout salon qui se respecte, j'ai vu les vendeurs, j'ai vu. C'est toujours très amusant de passer, de voir les trucs. Une fois que j'avais fini, j'étais là justement avec mon Erune et je lui ai dit ça, on a un problème, ma carte est gratuite, il faut qu'on la vende. Là, franchement, vu le prix de tout ce qui est disponible là, il faut vendre là. C'est trompé. Et heureusement, au milieu de tout ça, on venait de se faire quelques boutiques, on va dire ça comme ça. Hein. Et je suis tombé sur, il y avait un petit stand consacré au libre, avec toutes les ressources libres qu'on connaît, depuis Linux jusqu'à Framasoft, etc. Donc, je suis resté là, discuter un petit peu. Ils m'ont branché. Ils étaient là invités par Canopé, parce que sinon, ils n'auraient pas pu être présents. C'était des bénévoles qui étaient là, et ils étaient là pour présenter tout ce qui est en solution libre possible, notamment ce qu'ils ont conseillé largement, c'est d'aller faire un tour sur l'agenda du libre, sur le net. Agenda du libre, pour aller voir les manifestations qui avaient lieu, que ce soit l'installation de Ubuntu, que ce soit ce genre de choses, c'était pas mal du tout. Très agréable. Alors, c'était très drôle parce que d'un coup, vous avez discuté avec eux qui étaient à l'agenda du libre, vous marchiez 10 minutes et vous tombiez sur un robot qui m'arrivait à la poitrine. Le robot, un des copains de Nao, hein, pour ceux qui connaissent, très, très bluffant en termes de robotique quand même. Très, très bluffant.
Ouais, c'est vrai qu'il est bluffant. Ouais, ah, l'agenda du libre, tu n'as pas pris contact. Ils ont jamais, on avait voulu, j'avais depuis longtemps essayé de faire une émission sur le libre en éducation et c'était très compliqué.
Ah, ben écoute, j'essaierai. Non, il n'y a pas de souci.
Très, très compliqué.
Hein. Moi, j'ai tout un. Là, je suis reparti avec un truc tout bête. C'est une bonne photocopie remplie de tous les liens possibles, imaginables sur ce thème-là. Donc, au contraire, ils m'ont dit qu'il y avait une antenne sur Nice. On en a une antenne à, je crois que c'est à Sophia Antipolis. Donc, pourquoi pas? Ouais. On va essayer. Ouais,
parce que ça avait été compliqué à monter. Hein. Moi, je sais que j'avais abandonné. Hein.
Voilà. Ouais, bah, écoute, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'ai pu voir? Alors, à part eux, il y avait beaucoup de classes inversées, à droite et à gauche, ici et là. Il y avait notamment un prof de lycée qui était venu à quelques-unes de ses élèves pour présenter son mode de fonctionnement. Et il a fait quelque chose de très essentiel dans sa présentation, par exemple, c'est de dire, moi, au début, j'ai commencé à faire un petit peu, un tout petit peu, etc., puis j'ai commencé à augmenter. Il a fait vraiment une présentation, peut-être, il s'est pas contenté de montrer un produit fini, parce que c'est un peu ça que je reproche à tous nos dispositifs, c'est qu'on a tendance à montrer un produit qui est fini, oui, qu'on a utilisé pendant un moment, dans lequel on n'est pas devenu expert, mais dans lequel on roule, et on sait comment s'y prendre, mais on a commencé, généralement, on commence avec peu de choses. Et là, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a dit, au début, j'ai tâtonné, j'ai fait ça, ça a fonctionné, j'ai continué pour arriver au résultat qui était. Alors, il n'y avait pas que lui, il y en avait d'autres. C'était des tas de petits ateliers répartis ici et là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai assisté à ConiClass. C'est un dispositif qui est en place, je crois que c'est surtout sur Marseille. Ils sont en train d'essayer de mettre... ça plairait à notre ministre. L'application des sciences cognitives aux apprentissages à l'école. Notamment, dedans, il y avait quelques personnes qui ont participé à un MOOC que j'ai beaucoup aimé, un des rares que j'ai réussi à terminer dans ma carrière actuelle, qui était sur apprendre avec les sciences cognitives. Très sympa. Et je vous le conseille d'ailleurs. Donc, il y avait eux qui présentaient leur travail. De la Twitter, en veux-tu, en voilà. Et très sympa aussi, un atelier où l'enseignante de CM1 avait fait venir sa classe. Et c'était sa classe, en fait, c'était les élèves deux par deux qui nous expliquaient comment ils faisaient, comment ils opéraient avec une tweetée, comment ils rédigeaient un tweetie, etc. Et ils les invitaient à en faire un avec eux. Ils expliquaient super clair l'explication. Franchement, les petits étaient bluffants.
Je sais pas si on avait parlé sur les teachers des Twitter, non?
La Twitter?
Ouais, pas sûr. Hein.
Je ne suis pas sûr. Hein.
Là, en plus, on connaît quelques personnes hein, qui en
font. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est peut-être l'occasion de expliquer un petit peu, parce que peut-être pour ceux qui ne connaissent pas.
Mais écoute, ça regroupera ce que tu as mis tout à l'heure.
Qu'est-ce que j'ai mis tout à l'heure? Je ne sais pas.
Il y a ta date.
Oui, tout à fait. Bravo.
Et il y avait aussi CanoProf, que je ne connaissais pas du tout.
Très bon. Très bon outil.
CanoProf, comment expliquer ça facilement? C'est une espèce d'uniformisation des fiches de préparation ou des fiches de, voilà, des fiches de préparation faites par, en gros, ce qu'ils proposaient de faire, c'est d'uniformiser tout ça pour que ce soit facile non seulement à visualiser, mais à intégrer, que ce soit dans un Moodle ou dans un Magister, etc., via un petit formulaire qui ressemble à un truc CSS pour que
Oui. C'est un outil que je connais bien, moi, que j'utilise un petit peu. C'est un outil très puissant. C'est à base de. C'est Scénarii, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez Scénarii.
Oui.
Qui a été développé par CanoProf. Ils n'arrivent pas pour l'instant à le pousser, hein, mais parce que c'est vraiment un outil qui est un peu déroutant au début quand on est habitué au traitement de texte, par exemple. Mm-hmm. Mais il y a une partie collaboration aussi qui est très intéressante. Et une fois qu'on a fait justement nos documents, on peut récupérer, ils appellent ça des grains en fait, des morceaux qu'on peut récupérer, qu'on peut remettre dans d'autres documents facilement, qui sont adaptables sur papier, sur tablette, sur smartphone, sur ordinateur. Voilà, donc en fait tout se fait automatiquement et c'est un outil hyper puissant. Voilà, je sais pas si ça prendra. Moi j'ai essayé avec nos collègues de techno, c'est pas gagné, mais c'est un outil très intéressant en tout cas.
Ben en fait, la présentation qui a été faite, c'était à la fois de nous présenter un peu l'idée de comment ça fonctionnait et aussi de nous présenter ce qu'ils essayent de faire, justement, cette espèce de dissémination, de formation des enseignants. Et quand on connaît le niveau de certains de nos collègues, je ne suis pas certain qu'ils y arrivent un jour.
Non, et c'est un peu déroutant quand tu as l'habitude de faire du linéaire avec un Word. Quoi. Là, c'est plus du tout du linéaire. C'est, en fait, c'est des petits bouts qu'on assemble. C'est ça qui est un peu déroutant au début. Mais c'est un outil très puissant, en tout cas. Voilà. Voilà.
Et donc, alors ça, c'est les différentes. C'est ce à quoi j'ai pu assister dans l'espace principal. C'était assez bien fait, quand même, tout ça. C'était assez bien fait, le plan. Par contre, il y avait tellement de trucs que forcément, j'ai passé mon temps à me dire, ah mince, j'ai manqué ça.
Il faut se faire un petit programme, hein, tu verras.
Ouais, mais même, je vais te dire, j'avais pris mon programme, j'avais fait le bon élève, j'avais surligné les passages que je voulais voir. Et à la fin de la journée, j'ai fait, oh punaise, mais c'est vrai qu'il y avait ça.
Tu parce que
tu passes et tu t'es attrapé par quelqu'un. Et puis en plus, le coup, c'était très drôle, mais il y avait pas mal de gens de l'Académie de Nice.
Ah oui, forcément, vous êtes pas loin. Hein.
Il y en avait certains que je connaissais, qui commençaient à discuter. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je viens présenter un truc à l'espace des mots. Eh ben, viens voir ma présentation. Ah bah oui, parce que c'était un peu ça le point faible de l'espace des mots, c'est que quand on est coincé entre Microsoft d'un côté, Arte de l'autre.
Ah, il y avait des d'accord. Il y a des gros aussi comme ça, des grosses.
Il y avait des gros trucs.
D'accord.
Marque ton nom, ton prénom avec QR carte. Je me suis dit non, mais les gens jamais ils vont venir quoi. C'est je sais pas moi. À moins que j'ai des admirateurs cachés, etc. Ben, du coup, on va dire que j'ai eu qui j'ai eu. Ben, alors, j'ai mon Erune, forcément. J'ai eu quelques collègues de l'Académie de Nice. J'ai eu une ou deux personnes qui ont eu l'air, je ne sais pas, peut-être de se perdre là. J'espère que ça leur a plu. j'ai eu mon Dan qui est venu quand même. Je le remercie. Donc j'ai fait ma présentation tranquillement, je finis ma présentation, je sors de ma table et du coup j'en ai profité pour aller taper quelques minutes la discussion à François Lamoureux qui était dans le coin.
Ah oui, c'est vrai, j'ai vu que tu
avais ancien collègue devenu youtubeur, hein, mais avec qui j'avais envie de discuter parce qu'il m'a bien aidé au début. Et puis voilà, après l'espace des mots, c'était une petite salle qui était très bien aménagée, grand écran, etc. Mais alors, heureusement que par exemple, pour moi, j'avais prévu zéro son, parce que sinon, ce n'était pas la peine. Quoi. Il n'y avait que ma voix, ça suffisait, certes, mais si j'avais voulu diffuser quelque chose avec ma vidéo, c'était fichu. Et on était vraiment à l'écart. Quoi. C'est-à-dire que tu pouvais passer devant l'espace des mots une bonne dizaine de fois sans que ça te heurte. Alors, certes, il faisait des relances, etc., mais dans le bruit général de l'environnement, je dirais que voilà, c'était dommage parce qu'il y avait des tas de choses. On avait une collègue qui faisait la programmation avec des maternelles sur du Bebot.
On pivote. Hein.
Mmh. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'elle faisait en même temps qu'un autre atelier auquel j'étais déjà invité, donc je n'ai pas pu y aller. On avait une collègue qui faisait, elle faisait de la programmation sur Scratch avec des outils que j'utilise aussi, donc c'était super intéressant également. Mais voilà, il n'y avait pas tant de monde que ça. Pas tant de monde que ça. Et voilà.
Donc là, c'était sur deux jours, hein, cette été,
c'était
hein,
sur deux jours. Premier jour visiteur, deuxième jour visiteur et présentateur. Pardon. Alors moi, ça m'a beaucoup plu parce que pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais autour de moi des gens qui avaient à peu près le même profil, quoi, des enseignants qui aimaient bien le numérique, qui étaient intéressés vraiment par ce que tu dis et qui ne finissent pas par te dire « Mais quand est-ce que tu dors ?» Ah là, c'est...
Non, en tout cas, l'homme, je sais que tous ceux que je connais disent que c'est un des salons à faire, en tout cas.
Ouais. Écoute, ça m'a donné envie d'y retourner l'an prochain, franchement, même simple visiteur.
Je remets encore un peu, tu vois, toujours un peu le même truc sur ces salons. J'en avais déjà parlé quand j'étais revenu des Duspot, en fait. C'est ce que tu as dit tout de suite, Seb, quoi. En fait, d'abord, ça s'appelle pas le salon de l'orme, c'est les rencontres de l'orme. Mais en fait, oui, on en revient. Non, mais justement, en fait, c'est justement là-dessus que je veux rebondir. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'en fait, un peu machinalement, tu as dit un salon parce qu'on est tous habitués à ça. Et je t'en veux pas, déjà fait, je sais que je t'ai dosé depuis le début, mais là, pour le coup, c'était volontairement, parce qu'en fait, ça finit un peu par ça, quoi. Et, bon, il y a des contenus, bien sûr, intéressants et les salons et les développeurs, constructeurs, ils doivent bien sûr être présents. Mais, moi, c'est un peu ce que j'avais été un peu déçu de ça et du spot, quoi. On retrouvait.
Ouais, mais moi, j'ai pas fait du spot, mais à l'époque d'Educatis, c'était ça. Hein, c'était une foire aux marchands, quoi. Hein.
Ouais, tout à fait.
Voilà, quand tu vas. Moi qui ai fait Ludovia l'an passé, ça n'a rien à voir, Ludovia, par rapport à ça. C'est l'extrême, quoi. Voilà, on est vraiment sur le pédagogue.
Ouais, tout à fait.
J'ai l'impression que le rencontre de l'orme était un peu entre les deux, quoi. Non?
C'est l'impression que ça m'a donné, mais j'ai pas assez d'expérience. Hein. Ça, c'était mon premier. D'accord. On verra.
Bah, qui a des exposants, c'est normal. Hein. Je veux dire, moi, à l'époque où j'organisais Cyberlang, qui était un tout petit colloque, vraiment petit, parce qu'on avait entre 200 et 300 personnes, on avait aussi des exposants. Quoi.
Et puis, si tu as pas les gros, tu n'as peut-être pas un salon comme ça non plus. Hein.
Oui, et puis j'imagine
que c'est eux qui financent, justement.
Voilà, c'est ça, c'est eux qui financent. De toute façon, c'est eux qui amènent, il ne faut pas l'oublier. Hein,
oui, tout à fait. Sans eux, on n'aurait pas de.
Non, et puis, la tech existe, elle est là, elle est présente. Je veux dire, c'est normal, hein, mais après, il ne faut pas que ce soit trop mis en avant.
Mais c'est un des salons qu'on entend beaucoup parler, en tout cas, moi, je trouve, sur les réseaux et sur les différents.
Après. De toute façon, tu ne peux pas sortir les exposants, les vendeurs, etc. Ils ont leur légitimité là parce que ce salon n'est pas exclusivement à destination des enseignants. Il faut bien se le rappeler aussi. Donc, quand tu es une collectivité, quand tu es un représentant, etc., d'un groupe qui doit investir dans du matériel, autant l'avoir sous les yeux, etc. Ça me choque pas outre mesure. Après, moi, je donne mon ressenti d'enseignant quand je passais là, surtout enseignant du primaire, alors où les fonds sont pas du tout dans les mêmes dimensions que ce qui sont proposés là. À aucun moment, je me suis dit ah ouais, ça je le verrais bien dans. Je me suis dit non, c'est même pas la peine quoi. Le petit tiroir là coûte mon budget de l'année. Je vais tout éviter là. C'est pas...
Mais je non, mais après, c'est peut-être tous ces trucs-là, c'est en direction des collectivités, quoi, des mairies ou des voilà, c'est ça aussi. Ouais. Mais des gros comme Microsoft, qu'est-ce qu'ils avaient à proposer, moi,
Microsoft, ils étaient là, mais ils présentaient Teams, par exemple. Au moment où moi je faisais ma présentation de QR carte, ils présentaient Teams. C'est l'équivalent de Slack pour chez Microsoft.
Ah, plutôt, je connaissais même pas moi.
Ah, ben, tu vois, en plus, ça a un nom, Teams.
Ah, mais j'irai voir ça. Teams, T-E-A-M-S, décris ça ?
Oui, T-E-A-M-S, tout à fait. J'en ai entendu parler par les collègues de Lifestyle. De l'autre
podcast. Oui, qui sont spéciales Microsoft. Voilà. Hein. Ouais.
Donc, eux en parlent, bon, pas en bien, du coup, mais ils en parlent.
D'accord, bah, tu vois, je ne connaissais pas. Tu vois, donc, ils avaient des choses à proposer, les gros, quand même.
Oui, mais il y avait Microsoft, il y avait, tu avais des tas de trucs, tu avais des solutions que je connaissais vaguement, tu avais School par exemple, les tablettes
qui sont aussi.
Voilà, c'est tous les rayons où j'ai vu la technologie pure, je me suis pas arrêté parce que je me suis dit bon ben là pas la peine.
Ok, eh ben, très bien. Voilà. Très bon retour.
Je vous en prie.
J'enchaîne, moi ça va être très 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 rapide, hein. C'est un peu nos partenaires, on va dire. Non, je parlais de TADA, justement, on en parlait tout à l'heure de TweakT. TADA, T-A-D-A, c'est tout ce regroupement de propositions pédagogiques qui est né sur Twitter. En gros, hein, ça veut dire ça, je ne sais plus exactement ça veut dire TADA, je vais dire un gros mot. Qui seront aussi à Ludovia, justement, toutes ces structures liées à Twitter, hein, comme la TweakT que tu viens de parler, et dont nos collègues de Nipédu ont fait un petit épisode assez sympa, justement, pour parler de tous ces collectifs. Il y en a un bon paquet, dont certains, beaucoup que je ne connaissais pas, moi. Voilà, qui
il y a
sont
pas mal de capsules, là, non, ce qu'ils ont fait.
Il y a pas mal de capsules, ils ont eu du mal à inviter, je crois, beaucoup de monde. Moi, à part Défi Coding, que je connaissais bien, c'est les seuls que je connaissais. Qui sont des échanges en fait entre classes, de petits défis, se lancent des petits défis en code. Moi j'aimais bien, j'avais participé un petit peu avec mes sixièmes. Voilà, donc allez voir l'émission Nipédu 94 qui s'appelle Pédagogie, Formation et Réseaux Sociaux, qui parle justement de tous ces collectifs, en tout cas de tous ces propositions pédagogiques, comme ils disent, nés sur Twitter. Voilà, après on va continuer de nos partenaires, puisqu'on est partenaire, hein, toujours du Click 2018. Hein, je ne sais pas si vous avez vu l'affiche. On est sur l'affiche du Click 2018. Oui, monsieur. Vous enfin. Entendez bien. comme on avait été il y a 2 ans, hein, Guillaume, je ne sais pas si tu t'en souviens. Voilà, le Click 2018, qu'est-ce que c'est ? C'est le congrès collaboratif des classes inversées et des pédagogies actives. 3e édition du vendredi 29 juin, dimanche 1er juillet à l'Université Paris-Descartes. Voilà, vous pouvez assister à toute ce grand congrès sur la classe inversée, sur les classes inversées, comme on dit, puisqu'il n'y en a pas une, hein, tu l'as dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de classes inversées. Vous allez sur le site click2018.org et vous aurez tous les renseignements pour vous inscrire. Voilà.
Eh bien, c'est chouette de toutes ces actualités.
Seb, tu as mis un truc entre parenthèses, est-ce que tu veux en parler?
Ça va nous énerver, je crois que ça va nous énerver. Donc,
parle-en.
Allez,
parce que
si
moi, ça m'énerve moins que prévu finalement, moi.
Ça me fait marrer maintenant, j'en suis
marrer, voilà. Marrer, plus énervé.
Pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, en discussion à l'Assemblée, il y a le projet de loi concernant l'interdiction du portable à l'école. Alors, parmi nos quelques députés, certains se sont un peu emballés. Ils se sont dit, allez, soyons foufous. Pourquoi s'arrêter aux enfants quand on peut choper ces fonctionnaires d'État que sont les enseignants? Et on va leur interdire aussi le téléphone. Et puis, on va interdire aussi les tablettes. Et puis, on va aussi interdire les montres connectées. Et là, je me suis dit, si ça continue, je ne sais pas trop à quoi je bossais à l'école, moi. Mais bon, passons. Et donc là, juste aujourd'hui, ça remue un petit peu sur Twitter sur le sujet. Au départ, ça m'a énervé, puis après, ça m'a fait rigoler, comme souvent, parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans le primaire, j'imagine que dans le secondaire, c'est un peu pareil, mais en primaire, on a pas mal de protocoles de mise en sécurité, etc., qui se basent sur l'utilisation de nos téléphones portables. Sur mon téléphone portable personnel, j'ai par exemple une application qui est censée pouvoir prévenir en cas de danger terroriste, etc. Sur mon téléphone personnel est utilisé pour au cas où m'envoyer des messages d'alerte. Mon téléphone personnel me sert de cahier journal, d'un cahier d'appel, enfin de tout ça, quoi. Bon, pas grave, hein, mais ça ils ne peuvent pas le savoir. Mais par contre que tout le reste des dispositifs, ils sont quand même censés le savoir, les députés. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais allons voir plus loin. Ces gens-là sont en train de dire des âneries. C'est méchant pour les ânes, mais ce sont des âneries. Mais qu'est-ce que ça doit être sur les autres sujets, les autres domaines? Imaginons, sortons un peu de la bulle de l'éducation nationale, est-ce que ces gens-là sont aussi nuls sur tous les autres domaines ou ils ont vraiment des domaines de spécialité? Voilà.
Tu veux une réponse?
C'était une question rhétorique. Je voulais répondre, vas-y. Je voulais mettre un peu du...
Vas-y, Jeff,
attention, c'est quelques députés qui ont déposé un amendement, hein, pour les enseignants.
Bien sûr, je ne fustige pas l'ensemble de l'éducation nationale. Mais bon, réussir à sortir des bêtises pareilles, c'est quand même du haut niveau.
Après, il y a un très bon article, je suis tombé sur le Figaro là-dessus, qui disait en fait que cette loi ne servait à rien, puisque la plupart des collèges déjà ont l'interdiction de portable en classe. Et déjà, on oublie souvent qu'il y a un ancien texte, hein, qui le donnait déjà. Et ensuite, par contre, ce qui m'énerve moins, c'est qu'en fait, finalement, ce texte, cette première proposition de loi est presque plus souple qu'avant, moi, j'ai envie de dire. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y aura marqué quand même, à des fins pédagogiques, on pourra utiliser des appareils numériques. C'est la proposition de loi, c'était marqué. Donc finalement, ils sont en train d'assouplir ce qu'ils voulaient durcir. Alors,
Je vais juste réagir. Donc, on est bien d'accord qu'ils sont en train d'assouplir un texte de loi qui ne sert à rien et donc des heures de travail qui ne serviront à rien. On est bien d'accord.
Voilà.
Donc, okay. Voilà, mais bon. Il n'y a pas de souci.
Mais en fait, tout ceci, vous l'avez compris, messieurs, c'est uniquement une question
de communication,
de politique et de communication. C'est tout à fait notre ministre. Enfin, vous voyez bien, c'était les mêmes annonces que le retour aux fondamentaux, soi-disant, tout ce qu'il a annoncé sur les retours aux fondamentaux, le retour à la dictée, à tout ce que certaines personnes voulaient entendre et présenter encore comme si d'ailleurs. On faisait plus du tout de dictée, comme si on faisait plus rien, et voilà. Et c'est encore. De toute façon,
Tout à fait. Ça a été mais en repas de famille, ça a été la grande discussion. On m'a sauté dessus.
Mais parce que en fait, c'est ça qui marche. Voilà. C'est ça qui marche. Tous les gens qui sont pas dans le métier.
On m'a sauté dessus en me disant oh les téléphones portables, c'est bien. Voilà. Si ma grand-mère m'entend. Voilà.
Le nombre de fois où j'ai entendu depuis. Depuis cette histoire des gens qui connaissent rien de l'extérieur, donc c'est les mêmes gens qui à la fois gueulent sur les profs et à la fois qui vous disent que de toute façon ils feraient jamais ce boulot là pour rien au monde et qui vous disent ah bah enfin quelqu'un qui s'en occupe, hein, enfin quelqu'un qui fait, non mais attendez c'est une blague, moi je réponds à ce qu'on vient de tous de dire quoi, que le portable est déjà interdit et que donc oui
ça, ça changera rien. Non, ce qu'on avait peur c'est que vraiment, enfin moi ce que j'avais plus peur c'est vraiment qu'il y ait une loi qui interdise complètement, c'est-à-dire même à des fins pédagogiques, des choses comme ça, voilà. Moi, c'est ça qui m'embêtait un peu, voilà.
Oui,
de laisser le choix, quoi. Voilà, laisser le choix.
Ben, en tout cas, oui, laisser le choix.
Aux équipes, aux.
Non, et puis surtout,
aux établissements, voilà.
Encore une fois, l'interdiction, c'est complètement débile dans le sens où. Alors, en fait, ce qui s'est passé, j'ai discuté avec un chef d'établissement, ce que tu disais, Jeff, la première loi, c'est pas exactement ça. En fait, là, c'est vraiment l'interdiction de l'usage du téléphone portable. Non, l'interdiction tout court du téléphone portable dans le dernier texte de loi. Alors, je crois que ce qu'on avait avant, c'était le téléphone portable, il est. Je me rappelle plus. Enfin, il y a une nuance qui était entre l'usage et l'interdiction tout court, si tu veux. Où, en gros, tu peux l'avoir, mais pas le sortir. Où là, vraiment, ça serait carrément, on ne doit pas l'avoir dans l'établissement, en fait. Mais c'est un peu compliqué. Je ne sais plus exactement ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, comment c'est applicable, en fait. Enfin, je veux dire. Bon, on en a déjà parlé, on en reparlera, c'est absolument inapplicable.
Non, mais il n'y aura aucun changement actuellement. Voilà, on n'a pas le droit au téléphone portable dans tous les établissements. Donc, et on en parlera plus. Voilà.
Exactement.
Non, et qui nous laisse la porte ouverte sur la partie PEDA, moi, ça me va très bien.
Ouais, et puis qu'on laisse les députés. Qu'ils soient présents dans les votes importants, hein, comme quand on vote pour le glyphosate à 1h30 du matin et qu'ils sont deux à voter sur 500. Et qui viennent nous en reparler après. Voilà, c'était le moment politique.
Allez, on va pas plutôt parler de ce que l'on fait en ce moment, hein. Qu'est-ce que
voilà.
Vous faites?
Allez, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé.
Non, c'est moi, c'est ça?
Ah, ouais, mais t'as fait parler, j'ai envie de parler.
Tu parles trop, toi. Oui, vas-y.
Mais je parle, j'ai rien dit.
Allez, vas-y, enchaîne.
Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de ce qui est vraiment à la mode là, en ce moment. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un truc aussi fashion, aussi trending, comme on dit, c'est les escape games. On avait reçu il y a quelque temps deux collègues hein, qui créaient des escape games, qui étaient très, très bien. Moi, j'avais même eu l'occasion de le faire en formation de formateur sur Paris. Et c'est vrai que c'est un peu la folie des escape games. Tout le monde en fait de partout. Des projets d'expérimentation, c'est souvent des sujets sur les escape games. On essaye d'en faire dans les manuels, etc., etc. Donc, voilà. Moi, je me suis dit, on va tenter. Donc, je m'y suis mis aussi pour pouvoir tester avant de critiquer un peu. Et, écoutez, il y a du bien et, comme tout le temps, du moins bien, bien évidemment.
Ça, c'est avec les élèves, ça ? Ouais ?
Ouais, avec les élèves. Alors, en fait, si vous voulez, moi, ce qui m'embêtait un petit peu au début, c'était la définition de l'escape games. Parce que donc, jeu d'évasion en français, puisque c'est traduit comme ça. Ce qu'on connaît, le concept qu'on connaît tous, qu'on a peut-être déjà fait avec des amis lors d'une soirée, ce qui est très sympa, c'est bien sûr, on vous enferme dans un lieu et il faut en sortir un peu à la manière des films Saw pour les plus horribles escape games ou des choses plus légères ou avec des énigmes et. Truc un peu rigolo, mais en tout cas, c'est quand même des problèmes à résoudre dans un temps donné. Il me semble que c'est un peu ça, l'escape game, puisqu'il faut vite en sortir. Et en fait, là, il y a énormément de sites qui fleurissent. D'ailleurs, on en mettra dans les notes de l'émission, qui en fait mélange, je trouve, un petit peu tout ce qu'est l'escape game. C'est-à-dire dans l'escape game, on retrouve en fait des web quests, beaucoup de recherches internet. Les escape games pour l'éducation sont souvent liés aux nouvelles technologies et ça, enfin, aux nouvelles technologies, au digital, et c'est effectivement une bonne chose, je crois. Mais on mélange un peu tout, c'est-à-dire que à partir du moment où on fait une sorte de scénario pédagogique, j'ai l'impression que pour des matières qui jusque-là ne travaillaient pas sous forme de scénario ou d'approche par tâche. Du coup, maintenant, comme ils ont un truc à la fin de leur séquence, d'un coup, ça devient un escape game. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire, mais c'est parce que, ah bah du coup, à la fin de cette séquence, tu vas découvrir ça et ça, donc c'est un escape game. Non. Je trouve que là, tout le monde s'est un peu jeté sur le concept et on voit beaucoup d'escape games qui, en fait, n'en sont pas vraiment. Donc, c'était un petit peu ce que je voulais dire et revenir à ce concept de... bah, il y a une problématique, il y a un problème à résoudre, on va le résoudre d'abord en coopération. Souvent, c'est ça, un escape game, c'est le principe. Quand on va à 5 dans un jeu, on ne fait pas tous la même chose, on essaye tous d'aller un peu vers nos compétences, avec des tâches à l'intérieur de cet escape game qui sont différentes. Donc, on travaille aussi la différenciation. C'est-à-dire que quand on va faire un escape game, on va essayer d'imaginer des choses pour tous nos niveaux. Hein. En fait, c'est... pour moi, c'est vraiment une mise en scénario hein, de problématiques de classe quotidienne pour donner de l'enjeu, bien sûr, aux élèves, en rajoutant un petit peu l'idée du timing et du contexte, quoi, pour donner un peu d'enjeu. Donc, par exemple, là, il y a un site qui est pas mal, qui s'appelle cquesneescapegame.com. Si, vous
direz. Alors, c'est celle qui a invité sur le dernier Unipedu, justement.
D'accord.
Je sais plus. Je sais plus ce que je cherche son prénom, mais.
Eh ben, on ira voir. Donc, ça reprend. Il est très bien fait, ce site, parce qu'il reprend effectivement un petit peu plein de choses. Il y a des articles à la fois. Il y a cet horrible néologisme de gamification. Et surtout, il y a des ressources, en fait, avec des.
Christelle Ken.
Voilà, je crois que c'est ça. Donc bon, en plus, ils sont classés par niveau et par matière. Donc, je vais vous montrer vite fait celui sur lequel je m'étais basé pour faire un peu le mien. Voilà, en anglais, donc.
À mettre en place, ça prend du temps ou pour toi ou non ?
Alors, j'ai pas encore mis en place, moi. En toute honnêteté, c'est un peu le problème.
Tout seul, tu l'as monté ?
Ouais, j'ai voulu faire tout seul parce que j'avais, on va dire, une demande de personnes avec qui je travaille pour tester des choses, pour voir D'accord. si ça pouvait se déployer. Donc, j'ai fait ça rapidement. Donc, c'est pas mal, celui-ci. Voilà, il explique, c'est un petit truc sur les leprechauns, donc les fameux leprechauns, les fameux petits lutins irlandais. Bien évidemment, comme souvent, on s'aperçoit que les escape games sont souvent centralisés sur des padlets. On a déjà parlé de padlets, donc bon, il va falloir trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, c'est vrai que ça marchait bien. Donc là, il est pas mal présenté, ce truc, parce que si vous voyez mon écran, on a un petit teaser qui explique le contexte. Hein. Quand on pense au web quest en langue vivante, c'est un peu le processus de départ, enfin l'introduction, quoi. On explique pourquoi on va faire ça. Des ressources, bien sûr, qui mettent un petit peu en bouche. Et surtout, après, le déroulé par groupe. Donc là, elle a travaillé avec plusieurs groupes, jusqu'à 6 groupes. Et ce qui est vraiment intéressant dans cet escape game, et c'est ce qui me semble être une bonne méthode, c'est que toutes les découvertes des groupes vont être mises en commun, au final, dans un travail. Bon, là, c'est une activité sur Learning Apps qui devait trouver pour résoudre le code. Là, je ne sais plus trouver un code. Hein.
C'est souvent ça, le principe de l'escape game.
Bah, oui, en fait, c'est juste ce que je voulais répéter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce qui était important, c'est que chaque groupe devait absolument apporter son...
En fait, le problème, c'est qu'il y en a certains qui pensent que c'est très linéaire. En fait, ce n'est pas linéaire, un escape game.
C'est absolument pas linéaire. Et c'est voilà. Vraiment une approche...
Et c'est ça la complexité d'en monter un, je trouve. Moi, j'ai essayé, je prends la tronche.
Voilà. C'est très difficile. Et quand j'ai vu que tout le monde se lançait en fait sur les escape games, il y a même Eduskol hein, j'ai mis le lien si tu veux le mettre dans les notes de l'émission où il y a des choses très bien. Mais au milieu de ça, on a aussi n'importe quoi. C'est-à-dire, en gros, parce que tu réponds aux 10 questions que le prof te pose. T'as fait ce qu'il y avait à faire, donc si tu réponds aux questions, tu sors de la salle, quoi. Enfin, tu sors de la salle.
Voilà, à la rigueur, j'appellerais ça de la ludification, peut-être, mais pas. Oui. Mais c'est bien le principe pour moi, c'est que t'as tout en même temps, Et après, tu essaies de recoller les morceaux.
Voilà. Moi, je pense que pour qu'il y ait... Alors, je serais vraiment intéressé pour qu'on fasse une autre émission, peut-être, sur Escape Game avec d'autres personnes. Parce que quand on avait fait venir les collègues, là, c'était vraiment un peu des pionniers d'abord. Et puis, ils travaillaient vraiment sur quelque chose d'assez précis. Donc, peut-être voir maintenant que ça devient connu. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Mais
faire attention. Escape Game 2, si tu veux.
Attention, je voudrais pas que. Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, c'est un peu ce que je dis surtout aux jeunes collègues. Parce que voilà, je m'occupe de stagiaires en situation de formation initiale et qui sont à fond dans toutes ces lectures, tout ça. Et voilà, pourquoi je vois que c'est la mode, parce que ils ont même pas un an d'enseignement dans les pattes et c'est le premier truc qu'ils veulent faire. Et c'est super. Et encore une fois, c'est super. Mais attention, parce que ce qu'ils présentent, c'est à peu près tout, sauf de l'escape game. C'est, ah oui, on met un petit contexte, tu réponds à 10 questions et tu finis. Et c'est un travail individuel. Donc non, l'escape game, c'est de la coopération.
Ah oui,
absolument, quoi.
C'est absolument que faut que tu leur en... Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu les prennes toutes, tu leur en fais faire un. Qu'est-ce que tu fais?
Non, mais merci, bien sûr. Mais
en fait, je pense que si tu n'en as pas participé à un, alors déjà un escape game classique le samedi soir avec des potes, et après un escape game pédagogique, il faut vraiment en avoir fait un. Parce que moi, je m'étais fait un modèle d'escape game, et après, quand j'ai participé à un, en fait, je me suis dit, ah non, ça marche pas comme ça, ouais, d'accord.
Ouais, tout à fait. Et puis,
en fait, il n'y a rien de linéaire, voilà. C'est ça que j'ai remarqué, parce que beaucoup faisaient des trucs linéaires. On fait ça, alors ça fait ça, et ça fait ça, et ça fait ça. Non, en fait, pas du tout.
Je crois vraiment au potentiel de l'escape game. Vraiment, je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner. Par contre, comme tous ces nouveaux trucs, si on en fait trop, les gamins, ils vont finir par dire « Oh, un escape game ». Et en fait,
c'est sûr.
Tu vois, je pensais à la musique, là, le libre. Et c'est vrai que rien que ça, là, ils sont arrivés dans la salle le jour quand je l'ai fait. J'avais mis une petite musique en fond. Tu vois, ils disent « Qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Ça change de l'arrivée en classe, de l'appel, du truc. Je veux dire, là, la ludification, elle va au bout et c'est intéressant. Et pour répondre à ton question, si pour l'instant, ça demande énormément de temps, parce que justement, moi, les gens qui m'ont demandé de réfléchir là-dessus, ils m'ont demandé de réfléchir en fait à une sorte de matrice qui pourrait s'appliquer à tous les escape games. Je leur ai dit, ben non, ça va à l'opposé de la logique de l'escape game. Et eux, ils disent, ben oui, mais sinon, les gens le feront jamais parce que ça va prendre trop de boulot. Et oui, je suis bien d'accord, c'est un vrai problème. Mais si on commence à mettre une matrice d'usage sur créer un escape game, on va avoir tout le temps les mêmes trucs. Et c'est oui, alors il y a des principes de base, on les a énumérés là. Mais ce qui demande du temps, c'est ça justement, c'est réfléchir à comment comment les différents groupes vont travailler chacun de leur côté pour arriver à mettre en commun, et que c'est cette mise en commun qui amène à la résolution de la problématique. Donc tout ça pour dire que attention au piège de la mode, quoi. Hein, voilà.
Je me suis pas lancé. On avait essayé d'en monter un avec la collègue doc pour parler de EMI. Et bah, tu vois, on galère, quoi. On galère.
Oui, et puis, moi, tu vois, la problématique que j'ai eue dans celui que j'ai essayé de faire assez rapidement, je reconnais, bah, c'est pas compliqué. Hein. J'avais fait des groupes soi-disant hétérogènes pour qu'ils avancent tous au même niveau. Il y a quand même des groupes qui sont allés beaucoup plus vite que d'autres. Donc, celui qui va beaucoup plus vite que d'autres, il est à fond, il va vite, et il faut qu'il attende les autres après, quoi. Alors, tu peux dire aux autres, effectivement, du groupe d'aller aider les autres dans leur groupe, mais les autres groupes qui n'ont pas fini, ils ont envie de faire ça par eux-mêmes. C'est pas parce qu'ils mettent plus de temps, enfin, voilà, quoi. Donc, t'as aussi un groupe qui, enfin, tu vois, donc il faut penser à tout ça. Et du coup, ça demande une année, là, pour le coup, une ingénierie pédagogique qui est, à mon sens, pour l'instant, bien trop importante pour le résultat, en fait. C'est-à-dire que c'est un moment sympa, c'est un moment agréable, mais on est plus dans de la réutilisation de concepts, on n'est pas dans de l'apprentissage dans ces phases-là, hein, c'est pas ce moment-là. Mais par contre, on est dans de l'utilisation des connaissances et des savoir-faire. Et finalement, ça demande, c'est quand même très riche pour un retour qui est peut-être retour élève est super, voilà. En tout cas, je veux dire, on ne pourra pas en faire un par séquence, quoi. Enfin, moi, comme je l'imagine, ça ne me paraît pas possible. Quoi. Voilà.
D'accord. Ok.
Voilà.
Ouais, belle avis.
Ça, c'est un truc que tu n'as jamais tenté, Seb, toi. Non.
Ah non. Là, j'en suis. Je ne me suis pas intéressé plus que ça aux escape games. C'est vrai que je vois. Je suis d'accord avec Guillaume. J'en vois fleurir deux partout, pour tout et n'importe quoi. Ce qui n'est jamais très, très bon. Parce que forcément, dès que ça commence à fleurir deux partout, tu as. Attends, j'ai un rallye lecture. Attends, s'il répond aux 10 questions, je veux dire que c'est un escape game.
Voilà, c'est
c'est un rallye lecture, quoi. C'est... Enfin,
bon, c'est exactement ce que je dis. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon,
après ça vouloir. Hein. Non. Après, c'est des problèmes de. Ouais, enfin bon. Moi, ça me dérange pas, à la rigueur. Tu vois, voilà, c'est que tu dis que tu mets ça dans la ludification, tu mets ça dans l'escape game. Mm-hmm. Tant que ça marche, tant qu'il y a une démarche derrière, moi, je.
Non, mais je suis d'accord avec toi, mais bon, je suis d'accord.
Je m'en fous,
je suis tout à fait d'accord avec toi.
Catégorie, quand tu catégorises dans un côté ou l'autre.
Non, mais c'est pas de la catégorisation.
Si
truc... c'est que...
Bah, si, si, c'est un peu ce si que tu dis.
Proposes,
dis
si tu proposes quelque chose que tu appelles escape game ou jeu d'évasion et qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'évasion, que c'est juste. On enrobe un truc, tu vois, je veux dire, c'est un peu. Faut pas les prendre pour des cons, les gosses, quand même, je trouve. Hein. Il faut quand même avoir aussi cette honnêteté intellectuelle-là, quoi. Il s'agit pas juste d'être à la mode, quoi. Enfin,
je veux dire, ils vont vite le dire, les gamins, hein. S'ils en ont fait un, un week-end avec les parents, ils vont te dire, mais attendez, ça n'a rien à voir.
Bah, c'est clair, c'est clair, c'est clair.
Ouais, tu vas te prendre un c'est nul dans la tête, c'est bon.
Ouais,
ça sera mérité.
Bon, allez, on enchaîne.
Alors.
Ouais.
Je sais plus où j'en suis. C'est moi.
C'est toi, Jeff. Ouais.
Allez, ça va être bon, ça va être rapide. Justement, en intro, j'ai parlé de mon petit robot Dash. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai été contacté en ce moment par un chercheur en sciences de l'éducation sur l'université de Lyon 2.
Ah bon ?
Voilà, qui veut faire une étude pendant 3 ans sur la robotique en cycle 2. Voilà, donc moi, il m'a contacté justement pour former les PE cycle 2 à la programmation. Donc, on a eu une première demi-journée aujourd'hui. Hein, c'est pas plus tard que cet après-midi. J'ai une deuxième demi-journée mercredi prochain. Donc, il fallait leur faire voir déjà en une journée de formation le concept de programmation bloc. Dans l'ensemble, on est parti sur du Scratch Junior, des choses comme ça, qui est très vite rentré dans le concept. Hein, puis vraiment, on avait un public, déjà, ils m'avaient dit on serait une quinzaine, ils étaient 25. Voilà. C'est des chercheurs, ça. J'espère qu'ils m'entendent, qu'ils m'écoutent pas. vraiment un public vraiment très hétérogène, différents âges et tout. Et ça a super bien marché. Assez content là-dessus sur le principe du bloc. Après, on est parti sur différents robots. C'était vraiment, on leur proposait plein de robots différents à tester, etc. Et c'est en fait le but, c'est qu'en fait, à la fin de ces premières journées, ils soient plutôt à l'aise avec ces différents robots et de peut-être choisir sur un robot et l'année prochaine, le mettre en place dans leur classe et de trouver un petit scénario pédagogique dans leur classe, voilà, qui va permettre de faire de l'observation et de la recherche hein, par ce chercheur de l'université. Donc voilà, c'était assez enrichissant en tout cas, c'était un peu nouveau pour moi hein, de se mettre tu vois, en cycle 2, hein, où je n'avais pas l'habitude. C'est un public que moi j'adore, hein, les PE, hein, franchement. C'est un public qui est super, super enthousiaste sur plein de choses qu'on leur propose. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis dans le milieu de la recherche un petit peu, où je découvre un petit peu ce monde aussi qui m'était complètement inconnu. Voilà en ce moment ce que je suis en train de faire. Bah.
Et donc tu as d'autres journées de prévues ?
De mercredi prochain. Voilà, d'accord. Mercredi prochain et l'année prochaine, je ne sais pas encore si comment ça va se passer exactement. En tout cas, je lui ai dit que j'étais moi apte à continuer en tout cas là-dessus. Voilà, donc je vais m'amuser avec plein de petits robots. Je vous en amènerai d'autres, hein, parce que j'en ai un autre qui devrait arriver. C'est un petit drone de chez Parrot que je devrais m'amuser avec. Je suis comme un gosse, hein, je m'amuse avec tous mes joujoux hein, ça, aussi. Hein.
Bah oui, ouais, t'as raison.
Bah ouais.
Ben voilà. Et à l'université, ils n'ont pas le même budget que nous, hein, quand même. Hein.
Ah bon ?
Il en avait. Ouais, non, il en avait 10, c'était comme ça. Hein.
Ouais.
Que des comme ça, hein. Voilà.
Et combien il coûte, lui ?
Je vais rester poli parce qu'on nous écoute.
Voilà.
Allez, on enchaîne, c'est Seb.
Ouais, ouais.
Vas-y,
ouais,
t'es encore sur les robots, allez, vas-y.
Oh non, moi, je vais rester dans la programmation, pas sur les robots, mais programmation. Je crois que c'est en début d'année scolaire, je vous avais parlé avec du plus grand bien que je pensais d'une série de bouquins qui sont chez Nathan. C'est une collection qui s'appelle Ton Atelier Scratch. Ouais. Moi, j'en avais acquis deux. J'avais acquis La Révolte des Robots et Panique à Code City. Donc, le but est simple. C'est Alexandra Bernard, l'auteur, qui explique comment créer son jeu vidéo avec ces ressources-là, sachant que toutes les ressources sont en ligne, à savoir les sprites ou les lutins, si on parle Scratch, les lutins, les arrière-plans, les musiques, tout ça est disponible sur le site dédié et tout ça est de très bonne facture. Le livre coûte moins de 10 euros, donc, comment dire, je n'ai pas hésité. Et le truc très drôle, c'est qu'à l'Orme, la collègue qui faisait une présentation sur Scratch, au début, avait sorti un bouquin, un fascicule. J'étais, ouais, bof, c'est pas top. Et ensuite, elle a sorti ces deux bouquins-là. Donc, c'était parti. On a commencé la discussion. alors, je me suis dit, comment j'utilise ça en classe? Alors, j'ai commencé une approche très, très bête et méchante. J'ai dit, bon, on va essayer de le faire en classe ensemble. Donc, j'ai fait une séance. Et puis, quand je me suis dit non, ce n'est pas possible qu'on réussisse à monter le jeu comme ça, j'ai dit je vais le prendre à l'envers. Et donc, je suis arrivé il y a quelques semaines dans la classe en disant voilà, le jeu, je l'ai fini. Je vous en ai fait des tas de versions et dans chaque version, il y a un bug. Trouvez-le.
Ah,
réparez-le. D'accord. Et appelez-moi.
C'est chaud, sans
dire. C'est chaud. Alors déjà, bien sûr, j'ai commencé par la révolte des robots, qui est le plus simple. Hein, c'est tout bête, on dirige un robot de gauche à droite et il évite les obstacles qui descendent. Les gamins, ça les éclate. Ils m'ont expédié mes ateliers du premier jour, mais on ne peut plus rapidement. Du coup, je leur ai dit un défi. J'ai dit, alors maintenant, le jeu, vous me l'améliorez. Vous allez me faire des niveaux à ce jeu-là. C'est-à-dire que je veux que plus on grimpe en distance, plus les objets descendent de vite. Je me suis dit, là, je suis tranquille. Ils vont me dire, on n'y arrive pas, c'est pas possible, etc. Ben non, non, ils m'ont sorti des trucs très bien. Ils ont réussi à me dire, ah oui, mais il faudrait que... ils ont compris comment les objets descendaient, quelle était la variable qui commandait ces objets-là, etc. J'ai fait, waouh. Ah oui, là, quand même...
Mais t'avais déjà... Oui, mais ils avaient déjà du recul, les gamins, sur le
scratch. On a fait un peu de scratch, mais voilà. Pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Franchement, d'accord. Pas tant que ça. Ce qui les a surtout guidés, c'est que, par exemple, tu as quatre obstacles qui descendent, qui ont tous les mêmes programmes. Donc, du coup, ils se sont dit, bon, on va aller les comparer ensemble, on va voir ce qu'il y a de différent quand les obstacles ne descendent pas bien. Quoi. Globalement, alors après, je n'ai pas été méchant, j'ai mis un seul bug à chaque version différente du jeu. Et il faut aussi se rappeler que moi, ma classe, ça s'étale du CE2, c'est-à-dire du cycle 2, hein, Jeff, au cas où, jusqu'au CM2. ils m'ont bluffé, là, pour le coup, à un moment, c'est-à-dire que la semaine dernière, je leur ai dit, alors voilà ce qu'il faudrait faire pour faire vraiment des niveaux de jeu, et je me suis mis à parler variable avec des gamins qui ne sont pas encore au collège. Et ça leur a posé aucun problème, parce que pour eux, ils avaient un truc qui était marqué distance depuis le début. C'est une variable, ils ont compris le principe qui est derrière.
Ah, nous, on l'attaque en cycle 4, t'imagines, la variable en mathématiques.
Ouais, je sais très bien. Parce que là, je me dis... Mais c'est toujours la même... On s'est fait la même réflexion avec la collègue qui était à l'Orme. C'est que parfois, on se met des ornières restant très dans nos programmes.
Oui, c'est vrai.
Et à un moment, les gamins arrivent et c'est pratique, c'est efficace parce que c'est de la programmation, on le fait tout de suite. On essaie erreur, là il n'y a aucun problème.
En plus, c'était sur le réel, hein. Tu sais, quand ils font des jeux vidéo, tu as des codeurs qui font du debug.
Tout à fait, mais ça ils savent, hein, parce que c'est quand même leur. Ils savent, ils jouent à des jeux vidéo. Quand je leur dis que ben, normalement il y a une équipe entière qui est chargée de traquer. Oui, ça on le sait. Ah, bon, ben, d'accord,
quand il y a une sortie de bêta, tu sais que ça m'a donné des idées là, tu vois. Je vais le tenter,
c'est un débugger. Parce que là,
c'est la version bêta du jeu, on veut le sortir dans un mois, il faut me débugger tout ça.
Ouais, après, avec bon, les tiens, en plus, bon, tu peux y aller. Hein.
C'est bon, ça.
Donc là, cette semaine, normalement, on améliore le jeu. Là, le truc sur lequel je leur ai fait travailler, c'est que on a un seul robot. Moi, je veux qu'on puisse choisir parmi les quatre qui sont disponibles. Et là, je dirais bravo à l'auteur, parce que l'auteur, à la fin du bouquin, te propose des pistes en te disant « le jeu n'est pas fini, maintenant à vous de faire en sorte qu'on puisse changer le robot, qu'on puisse faire ci, qu'on puisse faire là ». Et ça, bien. Pédagogiquement parlant, la construction du bouquin, je l'avais déjà dit, elle est super bien faite. Et donner des pistes comme ça, voilà quoi. À la base, ce n'est pas un bouquin, je pense, qui est fait pour être utilisé en classe, mais en atelier avec petits groupes, mais là, moi, je m'éclate avec ça.
Bravo. Il nous avait fait un beau petit message suite à l'émission.
Tout à fait. Donc là, je me ferai sûrement un petit article. Là, je te montrerai d'ailleurs ce que j'ai fait sur mon blog.
Impeccable.
Et voilà.
On en est où, nous?
Eh bien, on en termine.
On termine. Allez, on termine pour parler d'autre chose. Je fais un truc rapide, moi. Allez, je finis et puis ça enchaînera bien avec ce que tu as mis, Guillaume, je crois.
Ouais.
Depuis très longtemps, j'écoute un podcast, puisqu'on dit que c'est dans les podcasts qu'on découvre des nouveaux podcasts. Hein, c'est souvent ce qui se dit. qui s'appelle Season One, qui est un podcast, ils en sont au numéro, oh, je sais plus, 200 et quelques, je sais plus, que vous trouvez sur Season One, alors One le 1, hein, .geekink.fr. C'est tous les, ah, je sais plus si c'est tous les 15 jours. Je crois que c'est tous les 15 jours, qui parle bien sûr de séries télévisées, vraiment dans tout. On parle vraiment de toutes séries télévisées, hein, séries américaines, séries françaises et séries même européennes. Hein. Voilà, c'est là que j'ai découvert une série brésilienne, surtout que j'avais parlé il n'y a pas longtemps, qui était très très 3%, je la conseille. Voilà. Qui... Comment ?
Il process.
Okay. Tu l'as vu ?
Ah, je l'ai fini il n'y a pas longtemps.
Excellent, hein, hein.
Ouais, pas mal.
Donc, Season 1, c'est vraiment un podcast très sympa, animé par Sophie, qui a plusieurs co-animateurs aussi avec. Et vraiment, on découvre, c'est une mine en tout cas de découverte. Hein, et même des fois, des séries très exotiques. Hein, on parle même des séries qu'il faut difficile à aller voir, hein, même des fois certaines. Donc, je vous la conseille, Season 1, voilà.
Sinon, combien ça coûte ?
C'est un podcast complètement gratuit, monsieur.
Merci.
C'est le principe du podcast.
J'enchaîne avec effectivement une série, hein, qui n'est pas nouvelle puisqu'elle est sortie l'année dernière. On en a la saison 2. Mais je voulais vous parler en fait un petit peu du livre qui en est issu, puisque c'est la fameuse Servante écarlate, The Handmaid's Tale. Donc pour info, c'est un roman en fait de Margaret Atwood, je crois qu'on dit, ou Atwood, je pense plutôt, écrivain canadienne, critique littéraire assez connue dans le pays du sirop d'érable, et qui a écrit ce bouquin en fait il y a longtemps, hein, il date de 1985, et surtout qui a été acclamé par la critique depuis. Et c'est marrant parce que ça fait vraiment partie de ces séries qui sont assez, de ces univers, ces histoires qui ont été écrites il y a longtemps finalement, et qui ne pouvaient pas être, je pense, techniquement adaptées en vidéo, quoique bon, c'est pas non plus très compliqué sur celle-ci, mais en tout cas, ça arrive assez tardivement. Et voilà, bon, c'est une dystopie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça se passe dans un futur totalitaire, voilà, apocalyptique en tout cas. On sait pas bien pourquoi, on le découvre petit à petit. Et vraiment, ça vaut le coup d'œil. Alors, si vous avez lu le livre et que vous regardez la série, comme d'habitude, vous allez être un petit peu déçu, hein, forcément des choix éditoriaux en tout cas qui sont faits, mais ça reste, la série reste quand même de bonne qualité, produite par Hulu, donc malheureusement pas bien accessible par chez nous de manière légale. Je crois pas qu'Hulu soit distribué en France. Il est sur Écarlate, je sais pas, peut-être qu'elle est sur Canal, tu penses?
MyCanal, non, ou OCS?
Oui, peut-être qu'OCS a acheté, parce qu'en tout cas, c'est une production Hulu, je veux dire, américaine au départ, effectivement.
J'ai OCS Go, moi, je me sens qu'il y est. Hein.
Pas voilà. Dit. En tout cas, ça vaut le coup. C'est bien réalisé, moi, je trouve, contrairement à des débats qu'on peut voir enflammés sur le net. La saison 2 commence assez bien. OCS. Et franchement, si vous êtes fan un petit peu de toutes ces dystopies sans zombies, hein, puisqu'on n'est pas sur du zombie, là, ça change un peu, hein, pour le coup.
Ah, c'est con.
Ouais.
Et il n'y a pas des super-héros aussi avec, ou non?
Tu veux vraiment qu'on parle de la fin des Walking Dead, là, parce que franchement, c'est pathétique. En tout cas, c'est plutôt sympa. Voilà, moi, ça me fait penser, bien sûr, à 1984. C'est un monde assez orwellien, on va dire.
Tu le compares à 1984?
Non, dans une certaine mesure, dans la dystopie, dans un futur assez pas éloigné, mais qui finalement, sous certains aspects, quand on voit certains comportements aujourd'hui politiques, de certains mouvements de pensée, on pourrait dire que c'est poussé à l'extrême, mais finalement, on pourrait dire que ça pourrait presque arriver, malheureusement. Hein. Orwell, je vous rappelle que la plupart des trucs qu'on trouve dans 1984, on y est quand même. Hein.
Mm-hmm. Tout à fait.
Il l'avait pas écrit en 1984, je vous le rappelle, c'était déjà le futur pour lui, bien évidemment. Voilà, donc en tout cas,
moi j'y suis pas allé, pourtant tout le monde l'encense cette série, tu vois, j'y vais pas moi encore, mais bon,
Écoute, je pense que tu peux regarder les premiers épisodes sans trop. C'est pas très long à mettre en place. En plus, c'est une série qui est courte. Enfin, moi, j'aime bien ces formats-là, quoi. On est sur 10 épisodes, hein. On n'est pas sur les 24 épisodes de, des trucs daubés, des experts à Saint-Hilaire qui sont la Valmite, là. Mais c'est bien, quoi. C'est du vrai. Enfin, voilà, c'est. On sait bien que pour l'instant. Les studios mettent du fric là-dedans et voilà, on voit bien que c'est un peu le nouveau cinéma, même si ça fait, si c'est pas terrible par certains aspects aussi. En tout cas, voilà, c'est de qualité, quoi qu'il arrive. Voilà, La Servante Écarlate.
Handmaid's Tales. Je crois pas qu'il soit traduit pour la série, mais
c'est pas très fun, hein, il faut bien le dire.
Non. Non, voilà. Non, non, non.
Faut pas se dire, tiens, j'ai pas trop le moral, je vais me mettre ça là tout de suite.
Non. Non. Ouais, effectivement. Effectivement, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais voilà. Oui, voilà, c'est pas South Park, c'est pas.
Alors, si tu veux du fun, et moi, il y a ma recommandation de ce soir. Hein. Attends, je soigne les
présentations. Un demi, ça, je m'en souviens de ça.
Alors.
Attends, c'est une réédition.
Ouais, justement.
Ah bon.
Parce que dans les premiers essais de Glénat avant. Alors. Toi, auditeur qui écoute ce podcast et qui a connu l'époque où les mangas n'existaient pas en France, oui, ça a existé. Il faut savoir qu'il y a eu une mise en place qui fut longue et assez délicate où, par exemple, un éditeur comme Glénat faisait des massacres avec des éditions horribles. J'en ai quelques-unes encore. Et parmi ces premières éditions, il y a eu Ranma 1/2. Ranma 1/2 qui nous conte l'histoire de Ranma Saotome qui, à la suite d'une chute dans une... dans un lac enchanté, devient fille au simple contact de l'eau froide. Réalisé par Rumiko Takahashi, auteur entre autres de Lamu. Ce truc est un petit pavé de délire absolu. Il y a de la connerie, connerie sur connerie sur la base de combats en arts martiaux. Enfin bon, c'est n'importe quoi. J'adore ce truc parce que ça me fait toujours marrer.
Il n'y a pas qu'elle qui se transforme, hein. Il y a d'autres personnages qui se transforment.
Tout le monde se transforme.
Tout le monde se transforme.
Tout le monde. Son père se transforme en panda. Et son ami juré se transforme en cochon.
Exactement. Et encore un manga adapté par la Toei et qui est passé au Club Dorothée. Mais
on va vous laisser, non?
Non, mais
voilà. Ce truc, trucs intéressants. Bravo. Voilà.
Et il est réédité là en ce moment chez Glénat. Alors, on en est au tome 4. Réédité en une espèce de format un peu collector, etc. Mais ça y est, le sens de lecture, c'est l'original. Est-ce qu'ils ont respecté les couleurs en partie? En tout cas, c'est propre. Voilà, c'est des vrais, c'est un vrai manga.
Est-ce qu'ils ont retraduit? Est-ce que tu sais si les traductions ont été refaites ou pas?
Si l'on traduit, je sais pas. Voilà. On va pas te dire.
Parce que
ça me choque pas. Écoute, je trouve la traduction de bonne.
Les premiers Dr. Slump étaient vraiment pas très très bien traduits.
Dr. Slump, en plus, il y a beaucoup d'humour de situation, ouais. de repères japonais qui.
Tout à fait. Bon, Jeff, on est en train de perdre Jeff là. Il essaie.
Non mais ça y est, on a fini là. Il est là avec son joujou à 150 €.
Ah, ça y est.
Hein?
Ah, c'est le prix.
Hein? Alors moi, je pense
je vous ai perdu, non?
Non, c'est toi.
Mais tu peux pas. Si franchement, si tu lis un jour un manga, lis du Rumiko Takahashi. Si tu lis Lamu ou tu lis ça, ça te marre pendant un
non,
moment.
Non, mais quoi. Si tu veux, lui, les générations XOR, quoi. Il a loupé toute la vague japonaise en France et ouais, c'est trop vieux. Tant pis.
Alors, j'ai XOR en DVD aussi, si tu t'intéresses.
Ah ouais, mais moi aussi.
Le chéri de l'espace.
Voilà. Et là, par contre, la traduction est moisie. On est d'accord.
Bon, allez.
C'est ma génération. Rigolez, quoi. Bon, il y a Tisman dans le chat qui nous dit « Les surveillants vont nous mettre des heures de colle », il nous dit.
Ouais.
À propos de...
Putain.
Tout à l'heure.
Tant qu'ils ne nous confisquent pas nos téléphones.
Ah bah, ouais. Allez, on termine là-dessus. On va essayer de se donner rendez-vous dans 15 jours, messieurs. Est-ce qu'on essaye de faire ça un jeudi pour avoir notre Seb américain? Parce qu'il nous a dit que le mercredi, ça allait être chaud.
On en parlera peut-être en off.
On en parlera tout à l'heure.
On
voilà.
va en parler en off parce que cette semaine-là, elle est belle pour moi.
D'accord.
Et en tout cas, en attendant, vous pouvez nous... rejoindre sur notre site à nous mettre des petits commentaires si on n'a pas raconté trop de bêtises ce soir sur eteachers.fr, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur iTunes. Faut que j'aille vérifier iTunes si on a un peu de choses.
Voilà. Et si vous voulez nous contacter directement, c'est sur Twitter, Seb.
@stuteur, S-T-U-T-E-U-R.
Voilà. Et Guillaume.
@willow_teach. J'aurai une réflexion voilà. Pour la fin.
Voilà, moi c'est @jeff8342. N'oubliez pas, si vous voulez nous soutenir financièrement, qu'on a ouvert un Tipeee. Ça nous permet un petit peu de subvenir à toutes les dépenses de notre podcast. Voilà, si vous voyez qu'on mérite 1 € par émission, eh ben n'hésitez pas, allez sur Tipeee et vous mettez, vous pouvez stopper quand vous voulez, il n'y a aucun engagement. Voilà, Tipeee/eTeachers.
Ma réflexion pour terminer, est-ce que Radma Ademi, qui est garçon ou fille quand elle touche l'eau, écrit avec l'écriture inclusive?
Nous en parlerons dans une
prochaine. Merci.
Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée.
Bonne soirée.